Radio Okapi.
Le journal avec José Moussa. Trois jours, c'est l'ultimatum de l'intersyndicale de régie financière au ministre des Finances pour répondre aux revendications des travailleurs, sans quoi elle se verra obligée d'amorcer des actions syndicales d'envergure. Tension hier jeudi à Nkula dans le secteur de Ndomba, territoire de Kabeya Kamwanga au Kasaï oriental, à la base le meurtre d'un jeune homme par un policier, les détails tout à l'heure. Notre invitée de ce soir est Chloé Sylvestre, conseillère de protection des femmes au bureau au conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à la MONUSCO Béni. Bonsoir à tous. L'intersyndicale de régie financière, notamment DGDA, DGI et DGRAD, donne un ultimatum de 72 heures au ministre des Finances pour trouver une solution aux revendications des travailleurs de ces régies. Ces fonctionnaires exigent notamment la rétrocession de recettes réalisées au mois de juin et juillet 2017 et la mécanisation des agents sous statut. Le président de l'intersyndicale de ces régies l'a dit ce vendredi à Kinshasa au cours d'un point de presse. Fidel Kiyangi au micro de Paul Matendo.
Il est constaté jusqu'au moment où nous rendons la présente déclaration de presse que la rétrocession sur les recettes réalisées des mois de juin et juillet 2017 ainsi que celle des pétroliers producteurs selon les cas de chaque régime n'est pas versée aux ayants droit, c'est-à-dire les agents qui souffrent et vivotent au point qu'ils ne savent pas à quel sein se vouer. Aussi, l'intersyndicale des régies financières adresse un ultimatum de 72 heures à monsieur le ministre des Finances pour résoudre les revendications sous revue en libérant les droits sociaux des agents qui sont plus que fatigués d'expérimenter une misère involontaire et imposée absolument. Recevoir l'intersyndicale des régies pour toute fin utile. L'intersyndicale des régies financières prévient que faute d'accéder à cet ultimatum, elle se verra obligée d'amorcer des actions syndicales d'envergure.
Finance encore, l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, et Agir pour les élections transparentes et apaisées à ETA, deux ONG de la société civile, ont tenu ce vendredi à Kinshasa une conférence de presse. Elles ont rendu public le résultat d'une analyse sur les prévisions et crédits alloués à la CENI pour les élections. Constat fait par ces ONG, il y a une certaine opacité dans l'exécution des fonds alloués à la CENI. Contacté, le rapporteur de la CENI affirme que son institution rend compte au Parlement de l'exécution de son budget. Le point avec Nadine Foulantim.
Les deux ONG, AETA et ODEP, ont, dans leur analyse, examiné les prévisions et crédits alloués à la CENI pour l'organisation des élections, ainsi que la situation politique et sécuritaire de l'heure. Au sujet du budget alloué à la CENI, ces ONG parlent d'une certaine opacité dans l'exécution de ces budgets. Gérard Bissambo, secrétaire général de l'AETA, explique.
La CENI a déjà mobilisé assez de moyens de l'État. La CENI a géré quelques opérations préélectorales avec autant de moyens que l'État lui a donné. Je crois qu'il est quand même important et il est obligatoire que la CENI puisse rendre compte de sa gestion.
Contacter la CENI souligne qu'elle rend compte régulièrement de l'exécution de son budget au Parlement et précisément au président de l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI.
Je demande aux organisations de se référer à la loi organique de la CENI, demande à la CENI de déposer son rapport d'activité électorale référendaire où il y a les détails sur les finances à l'Assemblée nationale. La même loi organique dit que la CENI jouit d'une autonomie des finances, mais les budgets de l'État, les aides de ceci ne sont pas remises à la CENI à main.
Concernant l'aspect sécuritaire, ces ONG fustigent des évasions massives observées dans les prisons du pays, ce qui, selon elle, favorise le banditisme.
À propos des élections, sachez également que la Cour d'appel de Lubumbashi a rendu hier, jeudi, l'arrêt sur les contentieux électoraux dans les provinces du Haut-Katanga et du Haut-Lomami. Sur les 11 listes présentées dans ces deux provinces, 5 sont retenues, dont 2 de la majorité et 3 des indépendants. Certains candidats indépendants invalidés crient au scandale car ils n'ont jamais appartenu à la majorité présidentielle, comme le prétend l'arrêt de la Cour. Le point avec Paul Moulanga.
Léo Katanga a aligné 5 listes, seule la liste de la majorité présidentielle avec le ticket PAN de Kapopo et son colistier Kalenga Mambepa et les indépendants Lukona et Kaïj sont retenus. Les autres sont invalidés au motif qu'ils font partie de la majorité présidentielle. Il s'agit des 2 indépendants et du parti UPCE, Union du peuple congolais engagé. Pour la Cour, ils ne peuvent pas concourir contre leur propre regroupement politique, même en postulant comme indépendant et autres. Le candidat indépendant Alexis Kaluazi s'est dit surpris car il n'a jamais été membre du PPRD. Il dénonce la machination des responsables du PPRD qui ont tout fait pour le faire invalider.
On m'accuse d'être membre du PPRD. Je me demande quand est-ce que j'ai pu signer mon adhésion dans ce parti. Et je me dis c'est de la machination. Et là, je voudrais vraiment poursuivre en justice ces documents qui fait le faux et usage de faux. Je voudrais bien dire et confirmer que les judiciaires est prise en otage par le pouvoir politique. Rien à faire.
Pour Léo Lomami, 2 indépendants et 1 regroupement politique sont retenus. La Cour reproche aux autres candidats le fait de n'avoir pas fait notarier leur lettre de démission de la majorité présidentielle. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Et puis cette annonce de Lambert Mendes ce vendredi à Radio Okapi sur le retour du signal de Radio France Internationale après 9 mois d'interruption. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a affirmé qu'un accord a été trouvé entre les autorités congolaises et RFI. Il rappelle que RFI va désormais travailler en synergie avec la RTNC. Rappelons que le signal de la radio française a été coupé en novembre 2016 à Kinshasa. On écoute Lambert Mendes au Malanga, adjoint par Marcel Mailleux.
Oui, je peux vous confirmer que nous avons rétabli depuis minuit ce jour le signal de Radio France Internationale à Kinshasa. Il n'y a pas de nouvelles dispositions puisqu'il s'agit d'une loi de 1996 qui n'avait pas été appliquée, dont j'avais décidé de l'application qui avait été respecté par la plupart des médias étrangers et que RFI avait traîné à mettre en œuvre. Maintenant que RFI s'est conformé à cette disposition de la loi, en signant un partenariat avec la RTNC, Média Public Congolais, il n'y avait plus de raison de maintenir RFI sous suspension de son signal. Et donc la mesure a été levée. Tout ce que la loi me demande, c'est de veiller à ce qu'il y ait un partenariat entre le média étranger qui veut émettre en RDC et un média de droit congolais. Comme cela est fait, moi ça me suffit.
Je l'ai dit en titre, au Kasaï oriental, une vive tension a régné hier jeudi dans la contrée agricole de Nkula, secteur de Ndumba, en territoire de Kabeya Kamwanga. À la base, le meurtre d'un jeune homme par un policier envoyé arrêter un cultivateur impliqué dans un conflit de limite de champ. La population en colère s'en est prise à l'un des coéquipiers du policier auteur du meurtre. Elle a lynché jusqu'à ce que mort s'en suive. Le récit des faits avec Théo Kasaï, président de la société civile sous coordination de Kabeya Kamwanga. Il est joint par Chris Mukand.
Les policiers qui étaient affectés au centre d'enrôlement de ce coin sont allés pour arrêter un cultivateur dans cette contrée agricole. Celui qu'on devrait arrêter a préféré que son problème soit traité par le chef de la contrée agricole. Alors, en échangeant avec le policier, un policier du nom de Moza Betou, Moza, a tiré à bout portant sur un garçon d'environ 15 ans, répondant au nom d'Embang. Il a lui-même fui, lui et le commandant qui l'accompagnait. Ne sachant pas où aller, le troisième policier a été surpris par toute la population qui était en colère et qui l'ont battu aussi, ils l'ont tué. Le policier tué s'appelle Kazadi Mukendi. Les autorités policières et administratives du territoire, ils ont dépêché une équipe à Ndomba et on a suivi même les autorités provinciales qui ont donné l'ordre afin que ce corps soit levé et les responsables du corps de Mbanga, ils ont préféré que son cadavre soit enterré en Mbujimayi.
L'administrateur du territoire de Kabeya Kamwanga, Sylvain Kankolongo, qui confirme les faits, indique que le calme est en effet revenu. Ceux des habitants qui se sont réfugiés en forêt par crainte de représailles de la police sont encouragés à regagner la contrée. En Ituri, la police nationale congolaise a présenté hier à la presse 2 groupes de présumés bandits qui ont opéré des vols ces derniers temps dans la ville de Bounia. C'était à l'état-major de la police locale. Les victimes de ces vols ont récupéré leurs biens tandis que les présumés criminels, tous les civils, ont été transférés au parquet de grande instance de l'Ituri à Bounia. Reportage José Deschartes-Mingra.
Ces gens que la police a présentés sont essentiellement des jeunes. Le premier groupe a été arrêté il y a 5 jours selon le porte-parole de la police à Ituri. Ils sont accusés de vol qualifié dans plusieurs quartiers de Bunia. Ils cassent notamment des maisons d'habitation et des boutiques. Ils le font, selon la police, à l'aide de grosses pierres communément appelées Katarina. Le major Abeli Mwangu explique.
Le premier groupe est spécialisé dans le vol qualifié. Dans ce groupe-là, on a récupéré plusieurs biens de valeur, dont un poste téléviseur, des magnétos et aussi une moto.
Le deuxième groupe est constitué d'une bande de voleurs et d'escrocs. Ils sont sponsorisés par une femme. Selon la police, c'est cette dernière qui leur fournit argent et assistance pour commettre leur forfait. Abeli Mwangu décrit le mode opératoire de ce deuxième groupe, maîtrisé il y a juste 2 jours.
Au deuxième groupe, ils sont aussi spécialisés dans le même type de vol, mais sponsorisés par une maman communément appelée Maman Bouki. C'est elle l'auteur intellectuel de tous ces groupes-là, qui finance, héberge.
Les propriétaires des biens volés les ont récupérés sans rien payer, comme les témoignent l'un d'eux.
J'avais d'abord déposé ma plainte. C'est après ils m'ont appelé quand ils ont retrouvé les histoires.
Rien payé pour récupérer?
Non, on n'a rien payé.
La police a déféré ses présumés bandits au parquet des grandes instances. Bounia, José Deschartes Menga, Radio Okapi.
Direction Nord Kivu, des milliers de déplacés de récents affrontements entre le Nduma Defense of Congo rénové et le Mai Mai Mazembe sont répartis sur l'ensemble du territoire de Lubero. Depuis leur fuite, il y a près d'un mois, ces déplacés vivant dans des familles d'accueil ne sont toujours pas identifiés par les humanitaires dans leur lieu de refuge. Ils vivent sans aucune assistance. L'administrateur du territoire de Lubero en appelle à l'intervention des humanitaires. Gisèle Cage.
Il ferait au moins 20 000 personnes, dont 6 950 identifiées dans la cité de Lubero, à avoir fui les affrontements d'il y a près d'un mois entre le NDC rénové et les Maimai Mazembe. C'est notamment à Kaeri et Kasuo, au sud de Lubero, qui sont à ces jours vidés de leurs habitants et dans la zone de Miriki en groupement Itala. Certains déplacés sont arrivés au chef-lieu du territoire de Lubero, à Luofu, Kirumba, Kaina et Kanyabayonga, où ils vivent dans des familles d'accueil. Mais seulement ces personnes vivent sans aucune assistance humanitaire. C'est la préoccupation exprimée par M. Bokele Joy, administrateur du territoire de Lubero. Il est joint au téléphone.
Les déplacés vivent dans des conditions difficiles. Il n'y a pas eu jusque-là une assistance de la part des humanitaires, ce sont des familles d'accueil qui supportent le coup. Avec les conditions actuelles de vie, si la situation persiste, on risque encore d'aller dans des situations humanitaires trop graves encore. Nous pensons qu'il faut accélérer pour que la sécurité puisse être restaurée, que ces gens retournent dans leur milieu respectif.
Une accalmie s'observe depuis près d'une semaine dans cette région. Les forces armées de la RDC qui ont lancé les opérations contre les Mazembe et le NDC rénové ont pu déloger la semaine dernière le combattant NDCR de village Buyinga, Katanda, Mayeba, dont la chefferie de Baswaga, précise M. Bokele Joy. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Province du Bazouélé, depuis bientôt 5 mois, les réfugiés centrafricains fuyant des hostilités armées dans leur pays arrivent à Bondo, territoire situé à plus de 500 km au nord de Kisangani. Évalué à plus de 35 000 personnes, ces sinistrés manquent presque de tout et la vie devient difficile, même pour les autochtones. L'administrateur du territoire invite les humanitaires à s'activer pour acheminer une assistance en leur faveur. Anselme Assoie.
La vie devient intenable vu la croissance de la population dans sa juridiction, déclare l'autorité territoriale de Bondo. Réfugiés et autochtones vivent présentement dans des difficultés incommensurables. Floribert Ekili.
Comme les gens n'ont pas de base, ils n'ont pas de la nourriture, ils n'ont pas de médicaments, parce que si aujourd'hui l'épidémie se déclarait, ce ne sera pas seulement les réfugiés qui vont mourir. La vie devient maintenant très chère au niveau des villages parce que le nombre de la population a augmenté et la production locale est trop faible. Et lorsque la production locale est trop faible, donc la situation requiert l'assistance humanitaire dans les territoires de Bondo.
Pour les chargés de communication adjoints du HCR en RDC Congo, le processus d'assistance à ces réfugiés est déjà déclenché. Une équipe du HCR se trouve actuellement à Bondo, dit Simon Beaucoup.
Les collègues sont allés faire l'enregistrement et la vérification des statistiques que nous avons reçues quand les réfugiés sont arrivés. L'assistance est en train de suivre. Nous avons un convoi qui se dirige vers le village de Ndou et les environs. Il se trouve pour l'instant du côté de Dungu. Un convoi avec les articles ménagers essentiels.
L'administrateur du territoire invite le HCR à accélérer l'opération pour éviter les pires. Kisangani, Anselme Assoie, Radio Okapi.
Actualité Afrique Monde.
Cette page internationale s'ouvre par l'Égypte. Au moins 18 personnes sont mortes et 58 blessées ce vendredi dans une collision de deux trains dans le nord de l'Égypte, précise la télévision d'État. La collision a eu lieu au niveau de la localité de Kourchid, à l'est d'Alexandrie, ajoute la même source. Des images diffusées par la télévision publique égyptienne montrent l'un des trains en partie renversé de secours, transportant les morts et les blessés vers des ambulances. Rappelons qu'en 2002, l'incendie d'un train avait fait 370 morts à une quarantaine de kilomètres au sud du Caire. C'était la tragédie ferroviaire la plus meurtrière dans l'histoire de l'Égypte. Les Nations Unies se disent extrêmement inquiètes d'une fouille illégale menée tôt ce vendredi par les forces de sécurité nigérianes dans leur camp de base de la ville de Maïdougouri. C'est au nord-est du Nigeria, épicentre de la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram. Nous sommes extrêmement inquiets, a expliqué à l'AFP Samantha Newport, responsable de la communication du Bureau de coordination des affaires humanitaires au Nigeria, et ce, en dénonçant l'intrusion des membres des forces de sécurité dans la nuit de jeudi à vendredi dans le camp du Red Roof, camp où sont basés une grande partie des employés de l'ONU et d'ONG internationales. La Chine exhorte Pyongyang et Washington à faire preuve de prudence tout en évitant les démonstrations de force, renvoyant dos à dos les deux pays après une nouvelle escalade verbale. Rappelons qu'hier jeudi, Donald Trump avait redoublé de virulence jeudi face à la Corée du Nord, accusé par le régime de Kim Jong-un d'avoir perdu la raison. Le président américain a défendu sa formule controversée sur le feu et la colère promis à Pyongyang, estimant qu'elle n'était peut-être pas assez dure. En réaction, Pékin a réitéré son appel à la retenue. Nous appelons toutes les parties à faire preuve de prudence dans leurs mots et leurs actions et agir davantage pour apaiser les tensions, a déclaré Jen Chuang, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Oh, happy. Oh, happy.